Un sujet d'actualité aujourd'hui, alors qu'on parle beaucoup de liberté d'expression ou de liberté de manifester. Dans l'actualité des idées, comment défendre un homme, une association, un journal, sans défendre sa cause ni partager ses convictions? Notre invité, il est avocat, maître Nicolas Gardère, avocat au barreau de Paris, maître de conférence aussi à Sciences Po. L'avocature est un bovarisme violent, écrit-il aujourd'hui à l'occasion d'un passage en revue des différentes causes qu'il a eu à défendre. Loin d'être perdues d'avance, elles ont en commun de ne pas être politiquement correctes. Avocat de Riposte laïque, de la Ligue de défense judiciaire des musulmans, comme du syndicat du travail sexuel. En revenant sur ces quelques affaires qu'il a eu à défendre devant les tribunaux, il ouvre une large réflexion autour des fondements éthiques d'un engagement professionnel. Bonjour à vous, maître Gardère.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Qui sont ces infréquentables que vous avez dû fréquenter? Pour les raconter, vous repartez des photographies de Diane Arbus, ces photographies de frics, de ces monstres exhibés dans les cirques et les foires, de sa relation avec ses modèles, de cette normalisation ou banalisation de la monstruosité à travers ces images. Quel rapprochement faites-vous entre vos clients et ces photographies?
Je crois que le rapprochement, c'est celui du paria, celui de l'assignation maléfique. C'est-à-dire que mon livre s'appelle « Voyage d'un avocat au pays des infréquentables ». Les infréquentables le sont d'abord par l'assignation d'infréquentabilité. Moi, je porte aucun jugement éthique. C'est pas moi qui les qualifie d'infréquentables. C'est la société, disons, qui les qualifie d'infréquentables de la même façon que les freaks de Diane Arbus étaient des freaks, d'abord parce que la société les assignait comme freaks. Ce qui m'a toujours intéressé, tant dans le travail de Diane Arbus que dans mes clients, ce sont ces marges, c'est le statut de paria. Qu'est-ce que ça implique d'être un paria, un marginal, un réprouvé, un rejeté? Voilà, c'est ça le lien que je fais entre les deux.
Alors, qui sont ces infréquentables dont vous nous parlez dans Voyage d'un avocat au pays des infréquentables, qui paraît aux éditions de l'Observatoire?
Merci. Alors, disons les fachos, les barbus, les islamistes et les putes, quoi, pour résumer ce que j'ai pu défendre comme dossier, comme affaire. Voilà, ce sont des groupes, des individus qui sont assignés maléfiquement, si vous voulez, d'ailleurs, à Sciences Po. Vous avez cité le fait que j'étais maître de conf à Sciences Po. J'ai un cours en Master 2 qui s'appelle la communication du mal. C'est-à-dire, à partir du moment où on est assigné maléfiquement, comment est-ce qu'on construit une communication, soit pour encourager, au fond, cette assignation, soit pour chercher à se dédiaboliser. Donc, on a des séances sur Daesh, sur Le Pen, évidemment, sur Soral. Enfin, c'est assez distrayant comme cours. C'est une sorte de sémiologie sauvage, si vous voulez.
Et reste à savoir ce que vous transmettez alors autour de ces figures et de ce que vous dites à vos étudiants. On va en avoir un aperçu à travers ces discussions que nous avons ensemble aujourd'hui jusqu'à 13h30. Alors, est-ce qu'on peut réduire ces monstres à leur apparence, ceux de Diane Arbus? De même, est-ce que les hommes que vous avez à défendre sont réductibles à leur opinion politique?
Ça n'est pas ce que j'ai observé, disons. Tout le monde le sait, théoriquement, mais je pense pas que tout le monde aille au-delà, finalement, de cette opinion, des opinions qui sont celles de ces individus. Et c'est cette réduction, cette essentialisation à des opinions politiques, à une injure, facho, par exemple, qui pose problème, puisque moi, encore une fois, qu'on me comprenne bien, à aucun moment je suis dans une sorte de relativisme, de dire leurs idées ne sont pas si dangereuses. Ça n'est absolument pas mon propos, et si c'est ce qui est compris en me disant j'ai échoué, mon livre est un échec. Donc non, ça n'est absolument pas ça que je dis. Ce que je dis, c'est que derrière le facho, disons, derrière l'islamiste, il y a aussi un être humain avec lequel on peut interagir, et que cette interaction est un bien en soi, et que cette interaction manque. Voilà un peu le fond de ma démarche. J'étais beaucoup inspiré, vous citiez le travail de Diane Arbus, mais beaucoup inspiré par le philosophe Martin Buber, qui est, je crois, le philosophe de l'impératif dialogique, du « je et tu », de la rencontre. Au commencement était la rencontre, nous dit Martin Buber. Et c'est ça, fondamentalement, qui m'a animé, c'est-à-dire que de cet espace psychique nouveau qui va naître de cette interaction, quand bien même les dimensions pures et parfaites du débat habermasien ne seraient pas rencontrées, à la limite, peu importe, même si c'est une discussion de mauvaise qualité, bourrée de biais, eh bien, cette rencontre est un bien en tant que telle. Elle est en tout cas supérieure à son absence. Voilà le fond de ma démarche, au-delà de la problématique de l'avocat et de la défense pénale.
Alors, vous allez quand même aussi au-delà de tout homme mérite une défense ou toute parole mérite d'être défendue. Vous estimez que la société a quelque chose à y gagner. Quelle est l'utilité sociale pour vous de l'avocat dans ces situations-là?
L'utilité sociale de l'avocat, déjà, elle est très classique et très banal. C'est-à-dire que tous mes confrères pénalistes de cour d'assises la rappellent systématiquement. C'est réhumaniser la société tout entière face aux tentations justement de tératologiques d'assigner certains de ses membres comme des monstres. C'est-à-dire voilà, réhumaniser la société en réhumanisant le monstre. Je crois que c'est ça qu'elle a profondément gagné. Et moi, ma démarche, c'est de dire, voilà, ces fachos, ces islamistes, ne le sont pas par essence, ne sont pas des, voilà, ils sont pas réductibles à cela, et on peut, en justement prenant ces individus pour ce qu'ils sont, c'est-à-dire des êtres humains, peut-être réussir à adoucir quelque chose pour le bien collectif, pour le bien de la société. Mais au-delà de ce que la société a gagné, ce qui m'inquiète, c'est ce que la société a à perdre. C'est-à-dire que, en créant des boucs émissaires, en créant des parias, en créant de faux martyrs, eh bien, on se dégrade collectivement. Déjà, il y a un effet pervers au fait de créer des faux martyrs. On pense par exemple à Alain Soral, qui a été condamné à 1 an de prison ferme récemment. C'est un vrai sujet. Les idées de Soral doivent être combattues. Mais le condamner à de la prison ferme pour des propos me semble profondément contre-productif eu égard au martyrat, si vous voulez, que cela implique et qu'il peut revendiquer. Mais au-delà de ça, c'est nous-mêmes, disons, la société, les braves gens, les honnêtes gens, le camp du bien, le camp du progrès, comme vous pouvez l'appeler,
auquel vous appartenez, auquel vous avez le sentiment d'appartenir.
C'est peut-être, disons, un des biais de ce livre. Je considère que j'ai raison, si vous voulez. Je considère que moi, mais empiriquement, je suis bien obligé de considérer empiriquement que je ne suis pas un paria, que je ne suis pas un réprouvé, que je ne suis pas assigné maléfiquement, que je suis maître de conf à Sciences Po, etc., etc., que j'ai une position dans cette société qui me place dans un camp, disons, dominant. Et à cet égard, voilà, j'assume cette position et je considère que oui, il faut combattre les idées d'extrême droite, il faut combattre l'islamisme, bien sûr. Je parle de là, je parle évidemment de là. Et je considère que cette démocratie libérale qui est la nôtre est un bien qu'il faut préserver, qu'il faut protéger. Et le fait de s'écarter du respect des libertés fondamentales, de s'écarter de l'état de droit, parce que politiquement, il serait justifié de maltraiter juridiquement certains, eh bien, me paraît dangereux collectivement, dangereux pour tous. Donc, la société prend un risque collectif à maltraiter, si vous voulez, à maltraiter l'état de droit, à maltraiter la justice, à maltraiter les libertés, sous prétexte que ceux qu'on maltraite sont des ennemis de ces libertés.
Mais elle ne prendrait pas aussi un risque à choyer toutes les expressions, toutes les paroles, quelles qu'elles soient?
Il ne s'agit pas de les choyer, il s'agit de les combattre. De les combattre politiquement, culturellement, intellectuellement. Mais je trouve que la réponse pénale, le réflexe pénal, le fait de systématiquement pénaliser l'expression, ces expressions, eh bien, est dangereux pour tous. La liberté d'expression, ça n'est pas une sorte de gâteau dont on pourrait retirer des parts, etc. Il resterait parfaite liberté d'expression pour les braves gens, pour les gens bien, etc. Non, c'est collectivement que nous régressons et c'est la liberté de tous qui au final est menacée. Voilà le fond de mon propos et le fond de mon inquiétude. Donc, encore une fois, il ne s'agit pas de choyer ces expressions, ces projets politiques, il s'agit de les combattre, mais autrement. Et la réponse pénale a tendance à nous déresponsabiliser, à nous infantiliser. C'est-à-dire qu'au lieu d'aller au combat politique, on envoie les flics. Et ça me paraît mauvais.
Alors, une des particularités de votre métier, disons, c'est que vous n'officiez pas ou peu dans un tribunal pénal. Votre précaré, votre terrain de jeu, entre mille guillemets, c'est la 17e chambre. De quel type d'affaires a-t-elle à traiter, cette chambre ?
La 17e chambre est une chambre correctionnelle. Hein, c'est la 17e chambre correctionnelle donc du tribunal de grande instance de Paris, en l'espèce, la 17e. Donc là, on est sur le champ de la liberté d'expression. Donc on parle de diffamation, d'injure, d'incitation à la haine. Puis un des autres champs de mon activité, c'est le droit administratif. Je suis publiciste à la base, je suis venu à une pratique pénale par le biais de cette liberté fondamentale qui est la liberté d'expression, parce qu'elle s'exerce dans le champ pénal. Sinon, mon champ privilégié reste le tribunal administratif, la cour administrative d'appel et en dernière instance le conseil d'État, quand parfois l'avocat à la cour que je suis, contrairement aux avocats au conseil, peut se retrouver dans certaines procédures bien particulières devant le conseil d'État. Donc, les affaires qu'on y traite.
Donc, entre droit public et droit pénal. Mais voilà. Sur cette 17e chambre, il est beaucoup question aussi de liberté d'expression.
C'est le cœur, si vous voulez. C'est l'application des dispositions pénales de la loi de 1881. Mmh. Et donc certaines infractions pénales y sont prévues, comme je vous l'ai dit, la diffamation, l'injure, et puis toutes sortes d'incitations à la haine, diverses et variées, qui, si vous voulez, la condamnation, la critique des lois Pleven, Guesso, sur la contestation de crimes contre l'humanité, etc., le rejet de ces lois, le problème, c'est que c'est l'extrême droite qui le critique. C'est-à-dire que nous n'avons qu'une critique d'extrême droite de ces délits. Le problème, c'est qu'évidemment, c'est une fumisterie, cette critique, puisque c'est ce qu'ils défendent, l'extrême droite, ce qu'ils défendent, c'est le droit de dénoncer des propos racistes, le droit de contester des crimes contre l'humanité. Moi, j'essaie d'avoir une approche libérale de la contestation de ces lois, considérant que ces lois sont contre-productives, ces lois n'empêchent rien. Regardez, on parle d'antisémitisme, de recrudescence de l'antisémitisme. Il m'a pas semblé, et du cas, on peut parler du cas d'Alain Soral, il m'a pas semblé que les sanctions pénales avaient un effet particulièrement efficace. Je veux dire, regardons ce qui est efficace. Si l'on se place pas sur le champ de la théorie et des principes, plaçons-nous au moins empiriquement sur l'efficacité de la loi. Il me semble pas que les nombreuses condamnations d'Alain Soral aient eu un quelconque impact. Je crois qu'il y a encore peu de temps,
impact
je sais pas
sur si
c'est
quoi, sur son comportement ou sur nos comportements collectifs, sur la montée de l'antisémitisme en France en général.
Sur son comportement et sur son audience. Mm-hmm. Je sais pas si c'est encore le cas aujourd'hui, mais il y a encore peu de temps, Égalité et Réconciliation, le site d'Alain Soral, était le site politique avec le plus gros trafic dans notre pays. Alors que par ailleurs, il était poursuivi pénalement. Donc on peut aussi considérer, peut-être pas la cause unique évidemment, mais on peut aussi considérer qu'il y a peut-être des effets pervers à pénaliser l'expression, qu'on se trompe de combat, que la réponse pénale et la déresponsabilisation politique qui implique cette réponse pénale, déresponsabilisation politique et intellectuelle, est mauvaise.
Pour autant, le site n'a pas été fermé.
Par ailleurs, le site n'a pas été fermé. Donc, c'est une autre problématique sur ce plan. Mais en tout cas, les condamnations pénales de Soral ne l'ont pas arrêté et lui ont permis aussi de forger, si vous voulez, cette stature, même si le mot est assez désagréable à utiliser le concernant, mais cette stature d'opposant, cette stature de, au fond, de dissident, comme il se revendique lui-même, au fond, voilà, je suis Solzhenitsyn, je suis un dissident, s'il me condamne, c'est parce que j'ai raison, c'est parce qu'ils ne peuvent pas m'opposer d'arguments politiques ou intellectuels, donc ils envoient le juge pénal pour me condamner, au fond, c'est parce que j'ai raison, I am under arrest cause I'm the best, enfin. Vous voyez, l'idée, c'est ça qu'il revendique et qui forge ce qu'il est et qui lui permet d'avoir une audience importante. Et voilà, c'est ça. Je constate que l'efficacité de la solution pénale me paraît extrêmement, extrêmement limitée et bourrée d'effets pervers.
Alors, vous l'écrivez, un avocat praticien des libertés publiques n'a jamais à défendre les idées de ses clients. Défendre, c'est toujours, au moins en théorie, défendre quelque chose qui dépasse les protagonistes du procès, l'état de droit, la justice, la liberté ou encore l'humanité. Mais vous mettez aussi en exergue de cet ouvrage une citation d'un internaute qui a dû vous être adressé. Bien évidemment, l'inénarrable Nicolas Gardère est fidèle à lui-même, c'est-à-dire abject, anti-français, anti-blanc, atteint d'un angélisme de gauche pathologique. Et vous vous demandez, à travers aussi cette citation, si vous êtes parfois l'idiot utile de toutes ces personnes que vous défendez.
Oui, forcément, puisque certains internautes d'extrême droite généralement m'ont assigné, alors j'ai pu être l'idiot utile de l'extrême droite, j'ai pu être l'idiot utile d'Israël, l'idiot utile des islamistes, l'idiot utile, de la République, enfin bon, c'est un peu l'insulte qu'on aime bien utiliser, ce lumpen prolétariat, ce très 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 bas clergé du débat intellectuel. Bon, oui, la question, parce que j'ai participé pendant plusieurs années à une émission de débat sur une chaîne web télé qu'on peut qualifier, sans lui faire offense, d'extrême droite, qui s'appelle TV Liberté. J'ai participé à une émission où j'ai débattu avec Jean-Marie Le Pen, avec Marion Maréchal, etc., etc., avec des Dupont-Aignan, avec des gens comme ça. Et la question, c'est, voilà, j'étais le seul de gauche, disons, dans ces débats. Et la question, c'était, voilà, est-ce que, au fond, je leur sers la soupe? C'est une question que je me suis évidemment posée. C'est pas ce que j'en ai retenu au final. Maintenant, cette expérience est terminée.
En y allant, vous aviez envie de quoi? De leur apporter la contradiction? D'être dans ce combat parole contre parole, intellectuel, comme vous l'évoquiez?
Clairement, j'avais envie de mettre en application mes idées, c'est-à-dire à un moment, en tout cas, sur la méthodologie, au-delà du fond de mes idées, sur la méthodologie, c'est-à-dire affronter l'extrême droite, sans se cacher, sans écarter les sujets qui parfois nous mettent à gauche un peu mal à l'aise, y aller, voilà, frontalement, idée contre idée, projet contre projet, assumer le risque du débat, Donc moi ce que j'en retiens c'est une expérience enrichissante pour moi à titre personnel. Et puis ce que j'en retiens aussi c'est le mérite et le bénéfice collectif qui peut être tiré de ça du débat tout simplement, quand bien même on n'atteindrait pas le dépassement dialectique, quand bien même on n'aurait pas convaincu l'autre, au moins on aura discuté, échangé, débattu. Et après 4 ans de ce régime, entre 2015 et 2018, j'ai aujourd'hui arrêté cette émission, et ben je retire pour moi, je crois, franchement, un bilan globalement positif. Dans les réactions qu'ont pu avoir les gens que je croisais dans la rue, qui me reconnaissaient, des mails qui m'ont été envoyés, où on me disait...
Il y a quelqu'un qui vous a dit, vous m'avez fait changer d'avis ?
Ça a pu arriver sur certains sujets... entre guillemets marginaux, qui ne sont pas profondément structurants d'une identité politique d'extrême droite. Mais encore une fois, je crois que c'était pas le fond. Le fond du combat, plus que convaincre l'autre, c'est au fond l'adoucir ou le réintégrer au champ de la discussion, le réintégrer au champ du débat. Quand bien même on ne prendrait rien de ces idées, au moins on aura fait exister, je vous dis, cet espace psychique qui est un bien en soi. Alors c'est peut-être très modeste au final, c'est pas des grandes victoires, mais je crois que ça tend à adoucir la société, ces petits échanges. Enfin, en tout cas, je ne m'éprends pas sur l'ampleur de ce que j'ai réalisé, mais à mon échelle, de ce que j'ai pu en constater, c'est adoucir un peu l'altérité politique.
Sans édulcorer.
Sans rien édulcorer.
Cas pratique, avocat de Serge Ayoub, le chef historique des skinheads, comme vous le décrivez, à l'initiative du mouvement Troisième Voie et fondateur des JNR. Vous avez eu donc à défendre cet homme et peut-être aussi indirectement, sans la partager, la cause qu'il défendait. Le gouvernement a demandé la dissolution de ce mouvement, de ces groupuscules, au lendemain de l'assassinat de Clément Méric. Retour sur parole, celle du Premier ministre d'alors, Jean-Marc Ayrault, à l'Assemblée.
J'ai demandé au ministre de l'Intérieur, comme également à la garde des Sceaux, de regarder ce que nous pouvions faire. Sur la base de l'article L212-1 du Code de la sécurité intérieure, issu de la loi du 10 janvier 1936, pour regarder les conditions de dissolution des groupuscules d'extrême droite qui provoquent la haine raciale que je viens d'évoquer. Sur la base de ces éléments, les éléments qu'il m'a transmis, mesdames, messieurs les députés de la droite, vous pourriez faire preuve d'un petit peu de dignité. Il y a un jeune homme qui est mort. Des arrestations ont eu lieu. Des mises à examen ont eu lieu. La justice se prononcera. Nous savons simplement que parmi les auteurs présumés, ils appartiennent à des groupes d'extrême droite, à des services d'ordre d'extrême droite. Et c'est d'eux qu'il s'agit. Nous ferons preuve de la plus grande des intransigeances. Mais encore une fois, dans le respect de la loi. Et c'est qu'à l'issue de cette procédure contradictoire qui prendra quelques jours, que si la conclusion s'avère à conduire à la dissolution, que le président de la République, en Conseil des ministres, prendra un décret de dissolution.
Alors, vous avez eu à plaider contre quoi ? Contre la dissolution de Troisième Voie et de ce mouvement des jeunesses nationalistes révolutionnaires ?
Oui, c'est-à-dire que j'ai attaqué le décret de dissolution devant le Conseil d'État, effectivement. Toute la problématique de cette affaire, c'est la distorsion des textes, le travestissement des faits. C'est considérer qu'on a d'excellentes raisons politiques de s'écarter au fond de la lettre de la loi. Et c'est ça que j'ai profondément défendu ici, si vous voulez, le combat politique de Serge Ayoub est le dernier de mes soucis, ou sinon il est un souci en tant que combat politique à mener contre, au fond, le projet politique de Serge Ayoub. Moi, ce qui m'intéresse, et vous évoquiez tout à l'heure ce que j'écrivais dans mon livre sur un combat qui dépasse, au fond, la cause du dossier qu'on a à défendre, c'est toujours le même, ce combat, dans chacun de mes dossiers, quelle que soit l'abjection des propos que je peux être amené à défendre devant la 17e chambre correctionnelle. Encore une fois, ce ne sont pas les propos eux-mêmes que je défends. Je n'ai jamais eu à justifier de propos. Ça n'est jamais la défense que j'adopte. C'est toujours les libertés. Les libertés que je défends, là en l'espèce la liberté d'association et l'application, disons, intégriste intégriste de la règle de droit. Quand on parle de liberté fondamentale, il faut être intégriste. On ne peut pas s'en écarter parce que le contexte le commande, parce que politiquement ça arrange tel ou tel camp, etc. C'est extrêmement dangereux de faire ça. Ces libertés fondamentales n'ont pas été forgées, uniquement pour temps calme. Ces libertés fondamentales, elles ont été forgées dans des périodes de crise, dans des périodes extrêmement difficiles, et pour tous les temps surtout. Pour tous les temps.
Mais vous posez vous-même une limite qui sont les appels à la violence et notamment les appels au meurtre, la plus grave d'entre elles. Et là, cette décision du gouvernement, de l'exécutif, elle avait été prise aussi au lendemain de l'assassinat de Clément Méric.
Oui, alors si on revient sur les faits, qu'il ne faut pas travestir, il n'y avait pas d'appel au meurtre à l'encontre de Clément Méric. D'ailleurs, le décret de dissolution n'en fait absolument pas état. Le décret de dissolution fondait cette dissolution donc sur le code de la sécurité intérieure, qui permet dans des cas tout à fait exceptionnels de dissoudre administrativement une association, loi 1901. En l'occurrence, c'était l'incitation à la haine et la milice privée. L'incitation à la haine était un mensonge. C'est-à-dire que le Conseil d'État a lui-même reconnu dans sa décision qu'il n'y avait aucune incitation à la haine. C'est-à-dire qu'on a produit tout ce que Ayoub et son groupe ont publié partout, etc. Le Conseil d'État a constaté qu'il n'y avait pas d'incitation à la haine, donc ils ont finalement retenu, parce que c'était pratique, la milice privée, parce qu'une fois par an, ils défilaient l'air martial avec leurs bombers noirs et leurs crânes rasés. Bon, ça fait un peu court. C'est ça qui me gêne, en fait. C'est que en s'écartant pour des gros méchants, en s'écartant de la lettre de la loi, eh bien derrière, on étend encore et encore et encore. Il y a un exemple que je vous cite d'ores et déjà, c'est avec l'état d'urgence. Souvenez-vous, attentat terroriste, Bataclan, état d'urgence. On assigne à résidence des islamistes. Dans le même temps, on a également assigné des militants écologistes, parce qu'il y avait la COP21 quelques temps après, et qu'il fallait assigner à résidence des militants écologistes. Alors voilà, on attrape tout, si vous voulez, et le risque, c'est que on affaiblisse, enfin, qu'on dégrade au fond, qu'on dégrade la loi, l'état de droit, la jurisprudence, et qu'au final, finalement, il y a une interprétation, une extrapolation, et que tout le monde puisse être, à un moment ou à un autre, poursuivi, condamné.
Alors, il reste quand même plus simple et plus logique d'être à la fois avocat et militant de la même cause. D'ailleurs, vos clients sont souvent les premiers à le penser, puisqu'après avoir défendu Riposte laïque, vous avez été congédié par l'un de ses membres fondateurs pour avoir défendu la Ligue de défense judiciaire des musulmans. Et selon Pierre Cassen, cette position, la vôtre, était intenable sur le plan politique et moral.
Alors, sur le plan politique et moral ne sont pas mes problèmes. Quand je suis avocat, je ne suis qu'avocat, avocat militant des libertés fondamentales, mais avocat fondamentalement. J'ai défendu la liberté d'expression de Riposte laïque, ça me va très bien, groupe islamophobe, hein. Et par ailleurs, j'ai défendu la liberté de conscience et de culte des musulmans dans une affaire en l'espèce du port à la cantine, vous savez, la suppression des menus de substitution dans les cantines de Chalon-sur-Saône. Affaire que j'ai gagnée en première instance, en appel, contre la mairie de Chalon-sur-Saône. Je vois rigoureusement, sur le plan de mon combat d'avocat, aucune contradiction. Aucune contradiction. Là où il y aurait eu contradiction, c'est d'un côté défendre la liberté d'expression de Riposte laïque, et de l'autre, me constituer partie civile pour la Ligue de défense judiciaire des musulmans contre des propos islamophobes. Là oui, ça je ne le fais pas, je ne suis pas du côté des censeurs, je ne suis pas du côté des parties civiles sur ce type d'affaires. Du moment que je suis, disons, du côté de la défense, si vous voulez, je défends les libertés des uns et des autres, je défends pas un camp, je défends pas une liberté plus qu'une autre. À partir du moment où un groupe, un individu voit ses libertés fondamentales violées, eh bien j'ai envie de le défendre et je le défends, quel que soit l'écart qui puisse exister entre mes propres opinions politiques. Parce que je suis aussi éloigné des idées islamophobes de Riposte laïque que de la bigoterie réactionnaire des islamistes.
En termes de liberté d'expression, où est-ce que vous placez le curseur ? Parce que c'est toujours la question
sur
la question de la défense. Parce que soulever le couvercle, c'est une chose, l'ôter complètement, c'en est une autre. Quand on voit aussi les déferlements de propos haineux, la montée des propos comme des actes antisémites dont on a parlé ces dernières 24 heures.
Si vous voulez, il y a un aspect théorique et un aspect pratique. Sur le plan pratique, j'en ai déjà parlé, c'est est-ce que c'est efficace ? Est-ce que la pénalisation, est-ce que la réponse pénale, est-ce que les condamnations pénales ont un impact ? ça ne m'a pas frappé. C'est la solution qui a été adoptée jusqu'ici. Ça n'empêche pas cette recrudescence actuelle. Donc je suis assez peu convaincu, disons empiriquement. Sur le plan théorique, le curseur est extrêmement difficile à placer. J'ai lu beaucoup d'ouvrages théoriques, de philosophes et autres, depuis John Stuart Mill jusqu'à des ouvrages plus récents sur où placer le curseur justement. J'ai jamais été convaincu. Je vous cache pas que j'ai jamais été convaincu par. Il y a toujours une part de subjectivité qui est trop grande. Et donc j'ai pas trouvé le curseur, je sais pas où le placer. L'appel à la violence, l'appel au meurtre, l'appel au viol doivent évidemment être des infractions pénales. Ça ne relève pas de la liberté d'expression. C'est un curseur. Donc il y a forcément encore une part de subjectivité. Pour le reste, hors de cet appel au meurtre, à la violence, au viol, je pense que voilà, il faut considérer que l'expression doit être libre et si vous voulez combattre encore plus sur le plan politique, culturel et intellectuel, ne considérer qu'il n'y a pas de juge pénal, il n'y a pas de flic, il n'y a personne d'autre que nous, avec nos arguments, notre intelligence, pour combattre ces idées, le racisme, l'antisémitisme.
Invité de la Grande Table des Idées aujourd'hui, maître Nicolas Gardère, auteur de « Voyage d'un avocat au pays des infréquentables ». C'est un essai qui vient de paraître aux éditions de l'Observatoire.
France Culture, la Grande Table, Olivia Gesbert.
Et retour à l'actualité avec vous, maître Gardère, et cette loi anti-casseur qui est en train d'être débattue au Parlement. Le ministre de l'Intérieur, Christophe Castaner, l'a défendue, cette loi anti-casseur, comme n'étant pas une loi de circonstance, n'étant pas une loi contre le mouvement des Gilets jaunes. C'était le 29 janvier dernier.
Ce que nous voulons aujourd'hui, c'est simplifier le dispositif déclaratif des manifestations. Mais c'est aussi faire en sorte que ce droit fondamental de manifestation soit garanti. Or aujourd'hui, une petite minorité, une toute petite minorité, prend en otage ceux qui manifestent, prend en otage les commerçants, prend en otage les villes, à Paris bien sûr, mais aussi de très nombreuses villes partout en France, et prend en otage le droit fondamental de manifester. Cette loi n'est pas une loi de circonstance. Elle avait été proposée et débattue au Sénat avant la manifestation des Gilets jaunes. Et je vous le dis, cette loi n'est en aucun cas une loi contre les Gilets jaunes. Elle est au contraire une loi qui doit préserver cette liberté-là de manifester. Cette loi n'est pas une loi de circonstance, c'est une loi de bon sens. Donner les moyens aux autorités administratives, sous contrôle de la justice de façon systématique, de faire en sorte que nous puissions dans ce pays manifester quand nous le souhaitons, sans pour autant subir les brutes. Parce que je parle bien de brutes, monsieur le député, non pas de casseurs, de brutes, qui considèrent que l'objectif, samedi après samedi, est de briser des vies et de menacer des policiers. Et donc nous devons nous donner les moyens, ensemble, de garantir ces libertés fondamentales et en particulier celle de manifester. C'est tout le sens de la loi et nous allons avoir l'occasion d'en débattre ensemble.
Une loi au nom de la défense des libertés fondamentales, au nom de la protection aussi de la liberté de manifester. Nicolas Gardère, vous êtes convaincu?
Écoutez, j'ai l'impression de lire à haute voix ou d'écouter à haute voix 1984 de George Orwell quand j'entends parler Christophe Castaner. Ce n'est évidemment pas sérieux. Restreindre les libertés fondamentales n'équivaut pas.
C'est les restreindre protéger. Ou c'est les protéger? Parce qu'il y a des droits, il y a des libertés, il s'agit aussi de les protéger et l'État se porte garant de cela.
C'est pas sérieux. Enfin, l'argumentation du ministre de l'Intérieur, après il fait son boulot de ministre de l'Intérieur, il est comme les copains, comme ses prédécesseurs, disons. Rien de très surprenant à cet égard. Ce qui me surprend un peu plus et me déçoit, je ne vous cache pas, je n'attendais absolument rien d'Emmanuel Macron, pour qui je n'avais pas voté au premier tour, mais j'ai évidemment élu au second. Il y avait quelque chose, j'attendais, voilà, c'est un certain libéralisme politique de sa part, que s'il y avait quelque chose qui défendrait, c'était les libertés fondamentales. Et j'ai pas été très convaincu par son acharnement à défendre de manière intégriste ses libertés fondamentales depuis qu'il est au pouvoir. Et cette loi confirme ce constat, c'est-à-dire que non, une loi qui restreint les libertés fondamentales n'est pas une loi qui garantit les libertés fondamentales ou qui les protège. C'est évidemment une loi de circonstance. Et donner trop de pouvoir à l'État, transférer des pouvoirs qui appartenaient aux juges, les transférer à l'État, au préfet, donc à l'État directement, est toujours quelque chose de dangereux. Encore une fois, ce que je dis tout à l'heure, les libertés fondamentales n'ont pas été forgées uniquement pour les temps calmes, elles ont été forgées aussi et a fortiori pour les périodes difficiles, les périodes de crise. Le risque, c'est le glissement. Qu'on continue à rogner comme ça encore et encore et qu'on glisse vers moins de liberté sur tous les plans, la liberté d'expression, la liberté de manifester, etc. Et qu'au final, on se retrouve avec un état de droit et un état des libertés fondamentales progressivement dégradé dans notre pays. Et c'est ça qui est dangereux, c'est rendre ce qui devrait être exceptionnel, le droit de l'état d'urgence, le normaliser, l'intégrer au droit commun, et après ça reste, et que ça soit des soi-disant ou entre guillemets libéraux qui soient à l'origine de ces régressions est très inquiétant puisque qui reviendra dessus? Si c'était un gouvernement de droite dure ou d'extrême droite, bon, s'il y a une alternance politique, on peut revenir, mais là, ce sont les libéraux qui votent ça, donc au final, il n'y aura pas de retour en arrière.
Mais
donc
à qui revient-il pour vous, pardon, Maître Gardeur, d'être le garant de cette liberté d'expression, mais aussi de la liberté de raconter des choses justes, des choses vraies, ou de raconter n'importe quoi? Vous avez notamment pointé aussi la loi sur les fake news qui a pu être envisagée. Qui devient l'arbitre? Il en faut pas.
Si vous voulez, je crois qu'il en faut pas vraiment. Dans les cas extrêmes, on a parlé d'appel au meurtre, etc. Il est bien qu'il y ait un juge, même bien qu'il y ait un juge sur des histoires de diffamation ou d'un juge. Moi, je suis plutôt pour le juge civil, celui des dommages et intérêts, que pour le juge pénal. Parce qu'évidemment, je vous traite de pédophile. Il est bon qu'il y ait un juge qui vienne dire que vous n'êtes pas pédophile. Pour le reste, je crois que le garant, c'est nous collectivement, c'est la société tout entière qui doit faire triompher, c'est pas du tout utopique de dire ça, faire triompher la vérité. La vérité finit, je crois, en dernière instance, toujours par l'emporter, toujours par triompher. C'est ce qu'on peut croire retenir à l'échelle de l'histoire, c'est que la vérité triomphe. Et donc c'est à nous d'assumer collectivement, à toute la société, aux intellectuels, aux avocats, à tous, aux journalistes, d'assumer ses responsabilités et de combattre sur ce champ-là. Mais on n'a pas besoin, on n'est pas un peuple d'enfants. Ce ne sont pas des enfants, ce ne sont pas des ados. On n'avait pas besoin d'un tuteur, d'un papa ou d'une maman qui vienne nous expliquer ce qu'il est bon de penser, ce qu'on a le droit de dire, de pas dire. Non, il n'y a pas à avoir de garant. C'est nous. Nous sommes nos propres garants.
Merci beaucoup à vous, Nicolas Gardeur, auteur de Voyage d'un avocat au pays des infréquentables. Vous continuez à mettre votre robe. Vous êtes défendu quelqu'un en ce moment?
Oui.
Il y en a d'autres? Il y en a beaucoup d'autres?
Oui. D'ailleurs, je dois vraisemblablement être bientôt auditionné à l'Assemblée nationale puisqu'il y a une commission d'enquête sur la dissolution de groupes d'extrême droite violents. Donc là, j'ai eu un appel tout à l'heure. L'Assemblée nationale souhaiterait apparemment m'auditionner à ce sujet.
À ce titre-là, voilà. Donc, Voyage d'un avocat au pays des infréquentables vient de paraître aux éditions de l'Observatoire. Un grand merci à toute l'équipe de la Grande Table, à Maya Neskovic et à Laura Dutèche-Pérez pour la Grande Table des idées, à Oriane Delacroix et à Henri Leblanc pour la Grande Table culture, avec l'aide précieuse, très précieuse, de Mathilde Tonfourcade et de Antoine Suzarelli. À la réalisation aujourd'hui, Marie Plesset avec Pascal Baudin. Très bel après-midi à tous sur France Culture.